Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
Il y a une prime au vice. C'est-à-dire que si tu es égérie, tu vas avoir plus de rôles, plus de visibilité. Tu vas être plus jolie en permanence parce que tu vas être tout le temps bien maquillée, bien habillée. Et finalement, ça crée une distorsion de concurrence. Parce que celles qui n'ont pas ça, qui refusent, eh ben elles n'ont pas accès à la même visibilité.
Aujourd'hui, je reçois la comédienne et autrice Audrey Vernon. La thune, c'est son sujet et les milliardaires, son obsession. On va parler de sa vie d'actrice et de la circulation de l'argent dans la profession. Très vite, Audrey pointera ce qu'elle qualifie de nouvelles dérives, comme l'omniprésence des marques dans le cinéma et la marchandisation des acteurs et des actrices contre de gros chèques. Un témoignage engagé qui donne, il me semble, quelques clés pour comprendre les colères qui agitent aujourd'hui le monde de la culture. Bonne écoute! Audrey, tu es comédienne engagée, même selon la presse. Et il y a quelques mois, j'ai découvert dans un article du Monde ton soutien à la décision d'Adèle Haenel de quitter le cinéma. Quand je t'ai contactée, tu m'as dit que tu étais très en colère contre certaines dérives du milieu et plus globalement contre certaines dérives du monde et du monde de l'argent. C'est une colère qui est là depuis longtemps, j'imagine.
Je pense depuis ma naissance, en fait. J'ai des souvenirs d'enfance liés à l'absurdité de ce monde capitaliste. Et il a fallu du temps pour que je comprenne exactement ce que je trouvais absurde dans ce système. Je suis née dans une famille de la bourgeoisie marseillaise. Et il y a un truc que je détestais quand j'étais enfant, c'était le shopping. C'est-à-dire que aller à l'école la semaine et le week-end, aller faire les magasins, je me disais, mais c'est pas possible, c'est ça le monde. J'aime pas du tout.
Qu'est-ce qui t'emmenait faire du shopping?
Ma maman, que j'embrasse, parce que c'est ce qui se faisait à l'époque à Marseille. Le week-end, on descendait en ville, acheter des jeans ou des trucs, et on faisait plein de magasins. Elle me faisait essayer des dizaines de trucs, et je trouvais ça horrible. J'avais l'impression de me balader dans une espèce de mall à ciel ouvert. Et je savais que si je ne cédais pas, on allait faire les magasins pendant très longtemps. Donc au bout d'un moment, j'acceptais d'acheter un truc. Et je rentrais à la maison désespérée en me disant « mais ça ne me fait pas du tout plaisir ». Et du coup, quand j'ai découvert le théâtre, tu vois, le fait de jouer le soir, de ce mélange d'adrénaline et d'endorphine, moi j'adore le côté drogue du théâtre en fait. Mais je pense que vraiment ce que j'aime dans le théâtre et l'art, c'est le côté non marchand. Alors évidemment, aujourd'hui, malheureusement, la marchandise est partout. Mais quand à 11 ans, j'ai découvert ça, cette pratique et tout ça, je me suis dit « ah voilà, ok, ça je veux faire, la troupe ». Dire des textes ensemble, créer quelque chose ensemble aussi, de manière gratuite. Mais pas de produire ou d'acheter ou de tout ça.
Donc tout ça part quand même d'une opposition au shopping. T'en es où avec le shopping aujourd'hui?
Et je déteste.
Toujours?
Ouais, toujours.
T'aimes pas?
Grosse angoisse.
Ouais.
Ah non. Je vis encore sur mes vieux vêtements qu'on me donnait quand je travaillais à la télé. Ma maman est encore désespérée quand elle me voit arriver et qu'elle me dit « mais elles sont trouées tes chaussettes ?» Et je suis là « ouais, elles sont trouées. Et alors ?» Ouais, non, j'aime pas du tout acheter des vêtements.
Donc toi, ça ne te gêne pas visiblement de parler d'argent?
Mais non, j'adore parler d'argent, parce que je veux éradiquer l'argent.
Et c'est un peu ton fond de commerce d'ailleurs dans tes spectacles. En tout cas, cette haine de l'argent, c'est ton moteur.
J'aime bien la phrase de la femme de Marx, elle dit « je ne déteste pas les riches, je déteste la pauvreté ». Et c'est vraiment ça, moi l'argent ne me dérange pas si... tout le monde gagnait 4000 euros par mois et qu'on pouvait tous avoir accès aux mêmes choses. C'est-à-dire, moi j'adore les hôtels par exemple, j'adore les beaux hôtels. J'aime quand c'est beau, j'aime quand on mange bien, j'aime tout ça. Mais par contre, le fait que moi j'ai accès à ça et que mes copines qui sont infirmières, professeurs, n'aient pas accès à ça. Ça, par contre, c'est un problème.
Vous parliez d'argent à la maison ?
Non, c'était pas un sujet. Je dirais qu'il n'y avait pas un capital intellectuel et social et même culturel qui faisait qu'on avait un point de vue sur l'argent ou même sur le travail ou sur les inégalités. Moi, je rêvais d'être dans une famille qui lit Le Monde et Télérama. Et ma famille, on ne lisait pas Le Monde et Télérama. C'était voilà, une famille bourgeoise qui accepte le capitalisme comme il est. Et donc, merci beaucoup pour ce podcast qui permet de parler un peu de ça, quoi.
Ton choix d'orientation, de devenir comédienne, est-ce que tu t'es déjà dit « Ouh, c'est chaud comme métier, est-ce que je vais réussir à gagner ma vie ?» Ou est-ce que tes parents t'en ont parlé, en fait ?
J'avais aucun conseil à ce sujet, donc j'ai fait vraiment un peu au pif. Au début, j'ai voulu continuer mes études, parce que je me disais oh, « les chances sont tellement minimes, en fait, je me disais « j'arriverai jamais ». Et puis, je suis venue à Paris. J'ai fait un conservatoire d'arrondissement. J'avais peut-être 19 ans. Et c'était marrant parce que j'étais avec des élèves qui, eux, étaient parisiens et qui avaient déjà tourné, qui étaient parfois filles et fils d'acteurs ou d'actrices célèbres. Et donc, je me suis retrouvée dans ce monde où tout à coup, je voyais que j'étais très en retard, en fait, par rapport aux autres. Et j'avais très, très peur de ne pas y arriver. Alors moi, j'avais de la chance parce que j'avais quand même le patrimoine qui me permettait d'essayer, en tout cas. Mes parents me payaient mes études, un studio à Paris, ce qui, à l'époque, était beaucoup moins cher qu'aujourd'hui, mais quand même déjà. Et puis bon, je travaillais à côté. C'est-à-dire que je passais des castings pour tout. Je faisais tout ce qu'on me proposait. Bon, j'adorais faire des figures dans les films. D'ailleurs, je crois que c'est vraiment les souvenirs de cinéma les plus beaux que j'ai. C'est cette époque où oh, je trouvais tout dingue. Je trouvais les actrices incroyables. Enfin, maintenant, je pense avec nostalgie à cette époque où vraiment tout était magique.
Donc là, tu te fais repérer par Canal, t'as 23 ans. C'est waouh, en plus, c'est le Canal des années 2000.
Ouais, c'était marrant parce que moi, ça me paraissait pas du tout waouh. Parce que moi, vraiment, mon rêve, c'était de faire que du théâtre. Et donc, j'ai passé ce casting en voulant pas du tout l'avoir. Donc, au bout d'un mois et demi d'audition, ils finissent par me dire « bon, c'est toi qui vas le faire ». Et je leur ai dit « D'accord, bon, je vais réfléchir. » Et donc, avec le recul, je me dis « Mais j'étais vraiment à l'ouest, quoi. » Tous les jours, je devais annoncer le programme du soir. J'avais une minute pour annoncer le programme du soir. En fait, c'était une carte blanche de une minute quotidienne et je pouvais faire ce que je voulais. C'est-à-dire que quand j'étais dans une période où j'étais obsédée par Marx, je faisais que citer du Marx. Quand j'étais dans une période Claudel, je faisais que citer du Claudel. Enfin, il y avait un truc de liberté. J'étais avec c'est Serge Calfon qui réalisait la plupart du temps et c'est un réalisateur incroyable. J'étais au milieu des guignols. En fait, c'était un endroit de sécurité totale. C'est-à-dire que je faisais ce que je voulais. J'étais bien payée. C'était marrant parce que j'étais serveuse à l'époque où ils m'ont engagée. Et la directrice du programme m'a dit... T'es payé combien là actuellement? Ben, je lui dis 12 € de l'heure. Et elle m'a dit ah oui, d'accord, ça va être beaucoup plus. Et effectivement, pendant les 10 années où j'ai travaillé là-bas, je crois que j'étais payée 750 € par tournage. Et je faisais 4 tournages. Enfin, je faisais plusieurs tournages par mois, donc c'était quand même très bien payé. Ça me permettait de faire mes spectacles à côté sans avoir aucune pression financière. Ça m'a permis d'écrire le spectacle sur Marx. Ça m'a donné une liberté financière sur laquelle je vis toujours aujourd'hui.
Est-ce que t'as souvent travaillé gratuitement ?
C'est venu vraiment avec Comment épouser un milliardaire, ça.
Alors ça, c'est le premier spectacle que tu as écrit et que tu montes toute seule, c'est ça ?
Alors j'en avais écrit un autre avant qui s'appelait Le spectacle le plus drôle du monde, mais j'avais pas encore compris les codes, le public et tout, c'était tellement cryptique. Ça parlait de politique, de philosophie, et je l'avais appelé le spectacle le plus drôle du monde, mais je m'étais dit, les gens font comprendre que c'est une critique de l'humour. Et en fait, non, les gens ne comprenaient pas, donc ils venaient voir le truc au premier degré, et ils partaient. Ils partaient, c'était un calvaire.
Quelle horreur.
Ah, c'était horrible. Horrible, horrible, horrible. Et après, en 2009, j'ai écrit Comment épouser un milliardaire. Et là, j'ai passé vraiment 2 ans à bosser sur le capitalisme. C'était en 2009. À l'époque de la crise des subprimes. Et j'ai lu le livre de Hervé Kempf que j'adore. Il s'appelle « Comment les riches détruisent la planète ». Et j'ai vraiment essayé d'enquêter sur les inégalités et d'essayer de comprendre c'est quoi ce truc riche, pauvre. Pourquoi il y a des riches, pourquoi il y a des pauvres, pourquoi moi je suis plutôt du côté des riches, qu'est-ce que ça veut dire. Et donc Hervé Kempf a été une lecture vraiment essentielle. C'est vraiment lui qui m'a permis de dire, ok, les milliardaires, c'est des psychopathes, c'est des serial killers, et il faut dénoncer ce qu'ils font, quoi. Et c'est comme ça que j'ai écrit Comment épouser un milliardaire, que j'ai joué pendant 12 ans.
Donc notamment grâce au cachet de Canal+.
Complètement.
Avant Bolloré.
Avant Bolloré, oui. Canal+ m'a permis d'avoir une liberté financière. Canal+, plus l'intermittence du spectacle, quand même, il faut aussi le dire. Ça m'a permis d'avoir la liberté financière, de passer beaucoup de temps à écrire, à lire et à pas prendre de risques, en fait. Et après, dans la foulée, j'ai écrit le spectacle sur Marx.
Encore sur l'argent. Comment ça se passe? Est-ce que quand on est comédien, comédienne, on jongle avec des projets qu'on aime et des projets plus lucratifs? Est-ce que tout le monde doit apprendre un petit peu à faire ces écarts-là pour continuer à travailler et à gagner sa vie et à faire des projets intéressants?
Ah, je ne sais pas pour les autres, mais pour moi, c'est sûr que ça a été un mélange entre des choses lucratives comme la télévision et des choses moins lucratives comme le théâtre, à des choses pas du tout lucratives comme jouer gratuitement dans les ZAD, par exemple. Mais ce mélange, moi, je l'aime beaucoup, mais c'est sûr qu'il est viable uniquement parce qu'il y a des moments lucratifs. Et après, les cachets, ça dépend. La télé, c'est très bien payé. Et ça peut être immensément bien payé. Le cinéma, pareil. Le théâtre, après, c'est quand même plus... Mais il y a quand même des grosses différences entre un seul en scène comme le mien qui peut être vendu 5 000 euros, par exemple, pour une représentation avec le coût du plateau, le coût de moi, du technicien, enfin tout le...
Qui est vendu à qui, du coup?
Ben, ça s'est vendu à un théâtre. Mm-hmm. Un théâtre ou à une municipalité ou... Peu importe.
Donc 5 000 euros la soirée.
Voilà.
Ouais.
Et après, moi, mon cachet, il est bien moindre parce qu'il faut payer la production, la diffusion... Enfin, il faut payer tout le reste, en fait.
Et par exemple, quand un théâtre achète une soirée à 5 000 euros, mm-hmm. donc un seul en scène que toi, ouais. tu as écrit, donc ouais. tu es l'autrice, tu es l'incarnation, enfin, tu es seule sur scène, mm-hmm. Toi, tu vas toucher combien sur un seul en scène de 5 000 euros?
700. Il y a mon régisseur qui vient travailler avec moi, et il y a ma productrice... Et il y a le diffuseur. Et voilà, dans la production, il y a 3 personnes à peu près qui travaillent pour diffuser le spectacle, s'occuper de la communication, s'occuper d'acheter les billets de train, s'occuper de tout ça. Et donc finalement, oui, je dirais qu'on est 5 à peu près.
Donc 5 personnes pour produire ta pièce.
Ouais. Donc, et puis il y a une partie de l'argent qui est conservée sur un compte qui m'appartient. Et grâce auquel je peux jouer gratuitement dans les ZAD, par exemple. Ça me paye mon billet de train, ça me paye ce dont j'ai besoin, ou quand j'ai besoin de faire des répétitions, ou quand j'ai besoin de... Par exemple, mon podcast qui s'appelle Big Books. voilà, ça finance ça.
T'as un podcast?
Ouais.
Je savais pas.
Mais c'est pareil, aucune notoriété.
Big Books.
Ouais, Big Books. Je lis des essais sur le capitalisme.
Ah, ok. Mmh. Ah oui, c'est un podcast de niche.
De niche. Mais tu peux avoir des salles en scène qui sont vendues jusqu'à 75 000 euros la soirée.
Ok.
Et là, donc du coup, ça veut dire qu'il y a une seule personne qui prend 75 000 euros et du coup, le théâtre, qui par exemple est un théâtre public ou municipal et tout ça, paye la tête d'affiche ce prix-là. Et derrière, il y a toutes les compagnies qui sont 10 sur scène, qui sont des jeunes compagnies, qui sont des compagnies de danse, de machin et tout, qui ont des... Enfin, qui ont des budgets nettement moindres sous prétexte qu'une personne a pris une enveloppe de 75 000 euros. Donc, il y a aussi des inégalités dans ce système.
C'est-à-dire que la personne, on va dire, bon, c'est une star du théâtre ou de l'humour, mm-hmm. dit « je prends 75 000 euros » et ensuite les autres vont un petit peu grappiller autour, quoi.
Bah, par exemple, je ne sais pas, il y a un budget, une municipalité a un budget de 300 000 euros pour sa saison théâtrale. Et ils veulent programmer, je sais pas, 30 spectacles. Donc, si une star mange 75 000 euros, forcément, il y a beaucoup moins derrière pour tous les autres, oui. Pour toutes les autres compagnies. Et c'est vrai que ça, par exemple, l'inflation des prix dans le théâtre, c'est quelque chose dont je parle souvent avec les programmateurs. Il y a ceux qui essaient de ne pas participer à cette inflation et ceux qui se disent « moi, c'est 75 000 ».
Mais ce que je ne comprends pas, c'est que le théâtre, il loue cette prestation, cette production pour 75 000 euros. J'imagine bien qu'ils envisagent de les récupérer, voire de gagner encore plus d'argent dessus.
Après, c'est...
Avec les places.
Oui, mais il y a des spectacles qui sont juste pour avoir une tête d'affiche et puis derrière avoir des... du public, soit qui s'abonne, soit qui vient. Ça ne peut pas toujours être rentable.
D'accord.
J'aime beaucoup le fait que mes spectacles soient rentables. C'est-à-dire que quand à la fin du mois, je regarde sur les déclarations SACD, je vois combien le spectacle a été vendu. Parce que bon, je dis 5 000, mais ça peut être 3 000 en fonction de la taille de la salle. Ou enfin, ça peut varier, quoi. Et j'aime beaucoup quand je vois que le théâtre a fait plus en billetterie que le prix qu'il a acheté le spectacle. J'aime bien ne pas faire perdre d'argent aux municipalités ou au théâtre, quoi.
On va dire pour un acteur ou une actrice moyennement connue, est-ce qu'il y a une hiérarchie du cachet selon qu'on travaille au théâtre, à la télé, au cinéma, dans la pub?
Oui, il y a beaucoup de différences. Et là, les plateformes, par exemple, amènent encore une nouvelle donne avec leur argent magique qui sort on ne sait d'où. Enfin, si, on sait, mais... la télé, c'est quand même relativement bien payé. Le cinéma aussi, le théâtre moins. Après, ça dépend vraiment de la notoriété de la personne. Il y a des gens qui touchent 5000 euros par jour pour tourner au cinéma, d'autres 3000, d'autres 10 000. Enfin, ça varie, quoi. Mais disons que ça va entre 75 euros ou 120 euros pour une figuration à 10 000 euros la journée, le cachet pour un grand acteur. Ça dépend vraiment du statut plus de l'acteur et de sa notoriété et de son talent et de plein de choses. Et puis, il y a des productions qui parfois essayent de dire ben, « nous, c'est tout le monde est payé pareil ». C'est vraiment des différences de philosophie.
À quel moment, quand on est comédien ou comédienne, on peut prendre un agent ?
Là, j'ai plus d'agent depuis quelques années. Et là, j'en ai rencontré un il y a 2 jours. Et c'était chouette parce qu'on avait un peu la même vision du travail, en fait. Après, j'entends beaucoup d'histoires d'agents qui obligent, enfin pas qui obligent, mais qui conseillent fortement de faire certains projets très rémunérateurs et qui sont objectivement nuls. Et évidemment, les agents, ils touchent 10% à peu près du cachet, donc forcément, ils ont un intérêt à ce que les acteurs travaillent. Mais bon, pour moi, c'est quand même plutôt une rencontre artistique. Après, il y a des acteurs qui, par exemple, qui s'autoproduisent et qui gèrent eux-mêmes cette partie du travail. Oh, moi, je serais incapable de faire une facture. Je serais incapable de dire à un théâtre, bon, alors c'est temps et tout ça. Mais je sais qu'il y a plein de comédiens qui le font. Et je les admire pour ça. Moi, c'est ma productrice qui
le fait. C'est ta productrice, d'accord.
C'est ma productrice qui le fait et je la bénis tous les jours de le faire.
Est-ce que tu as déjà dit non à un gros cachet ?
Non, j'ai pas du tout de proposition de gros cachet. Non, j'ai jamais eu de vrais problèmes de conflits. Il y a plein de trucs que j'aime pas et ça se voit vraiment beaucoup, beaucoup et très, très vite. Et donc, non, j'ai plus de problèmes à trouver des projets qui à la fois me plaisent et m'intéressent. Enfin, ouais.
Est-ce que tu as une réputation de chieuse dans le milieu ?
Je sais pas. Je sais pas. Oh, mon Dieu. Déjà, je suis pas une star. Hein. Donc, on est quand même très, très loin d'avoir des problèmes de... J'en sais rien. Je sais même pas si j'ai une réputation dans le milieu. J'adorerais. J'espère que j'ai une réputation dans le milieu, mais je crois pas. Non, je pense pas.
Est-ce que les comédiennes, les comédiens, c'est globalement des gens qui galèrent ?
En France, on a quand même un système qui est assez fou, qui est l'intermittence du spectacle. C'est-à-dire que à partir du moment où on fait 57 cachets, où on joue 57 fois dans l'année, on est payé le reste de l'année à écrire, répéter. Oui, et ça, c'est assez unique au monde quand même. Évidemment, c'est difficile de trouver 57 dates dans l'année. c'est difficile de faire des cachets, c'est difficile de travailler tout le temps, toute sa vie. Mais voilà, la France, je ne sais pas d'ailleurs par quel miracle. On a toujours ce statut dingue, mais vu ce qu'ils font par ailleurs, je me dis que c'est quand même une grande chance. Mais voilà, ouais.
Hier, une cagnotte a été créée sur Litchi pour soutenir Jean-Pierre Léo, qui est donc cet acteur fétiche de la nouvelle vague, puisqu'à 79 ans, il se trouve en grande difficulté financière. C'est vrai que certains acteurs disparaissent du jour au lendemain. Alors, je pense notamment aux femmes. On le sait, là, beaucoup d'actrices ont pris la parole pour dénoncer leur manque de rôle, leur invisibilisation après 50 ans. Quelquefois après 40 ans aussi, est-ce que le fait justement de vieillir pour des comédiens, ça peut créer des peurs financières ?
Mais je crois que c'est Méliès qui a fini vendeur de bonbons à la gare Montparnasse. Ça, c'est un sujet que je vois de façon plus large, c'est-à-dire que ce sujet-là me touche au-delà de la profession de comédien, comédienne. C'est-à-dire que le problème, c'est l'argent. Et l'argent est... Et le fait qu'on soit devenu superflu, qu'on soit jetable. Et c'est pour ça que j'ai une telle passion pour les écrits contre le capitalisme. Parce qu'en fait, ça montre que notre système est profondément mauvais et qu'il n'est pas inéluctable. Il y a des populations qui n'excluent pas les gens quand ils vieillissent, en fait. C'est le capitalisme qui a fait qu'on a une relation débile avec l'âge, avec le fait que quand on est plus productif... Ben, on est jeté. Et le fait que si tu travailles plus pour de l'argent, ben, tu sers à rien dans cette société, c'est juste horrible. C'est quelque chose, au-delà des acteurs et des actrices, que je trouve super triste et qu'il faut changer de toute urgence.
Est-ce que dans ton métier, il y en a qui font des ménages, entre guillemets, pour boucler les fins de mois? Donc de l'animation d'événements, de la pub, des campagnes d'influence sur Instagram, des choses comme ça?
Bah oui, il y en a plein.
Ouais.
Il y en a plein, mais après, voilà, pareil, il y a vraiment des différences gigantesques entre être clown dans un anniversaire et puis être Égérie Vuitton.
Mais est-ce qu'on peut être Égérie Vuitton un jour et clown dans un anniversaire le lendemain? Ou six mois après.
Par contre, on peut être Égérie Vuitton et Égérie Greenpeace. Ça, c'est plus...
Ah.
Ça, c'est plus curieux.
Tu penses à des gens. Mais tu ne diras pas qui.
Mais non.
D'accord.
Ou on peut jouer une ouvrière dans un film d'auteur et être Égérie Dior. Pareil. Chelou, mais ça existe.
Et ça, ça te pose problème.
Mais évidemment. C'est dingue. Et là, le problème... C'est que, déjà, c'est très nouveau, le fait que les milliardaires achètent des actrices pour être égéries. Ça n'a pas... ça a 5 ans, 6 ans. Avant, il y avait des actrices qui faisaient des publicités, qui faisaient une campagne de pub, ou par exemple, Catherine Deneuve, qui était amie avec Yves Saint Laurent, et donc qui portait ses vêtements, mais c'était quelque chose de non-marchand, c'était de l'amitié. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment un système caché. Il y a des agents d'image, qui est un nouveau métier, qui placent les actrices dans les marques et dans les campagnes. Mais ce n'est pas des campagnes de publicité, forcément. Elles peuvent être amies de la maison Chanel.
Donc, ça veut dire participer au défilé, éventuellement être sur le compte Instagram de Chanel?
Ça veut dire assister au défilé, être rémunérée à l'année pour porter les vêtements dans les apparitions publiques.
Ça, c'est des choses que tu sais de source sûre, toi, puisque tu as des amis qui sont dans ce milieu.
Oui. Oui, il y a des gens qui peuvent être payés 100 000 euros pour être présents 10 minutes à un défilé. Des acteurs et des actrices.
Qui sont forcément très connus ou ça peut être des acteurs et des actrices débutants?
Alors là, il y a un nouveau... ce qui est très étrange, c'est qu'il y a des jeunes actrices qui jouent dans des films d'auteurs qui ne sont pas très connus, mais qui sont déjà Égérie Vuitton, Égérie Chanel, Égérie Dior. Et ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. C'est des actrices qui ne sont pas du tout identifiées du grand public, mais qui sont déjà sous contrat avec un milliardaire. Et pour moi, ça, c'est très problématique parce que déjà, ça veut dire qu'elles sortent de la condition commune des acteurs et des actrices qui doivent travailler pour vivre et tout ça, parce que tout à coup, hop, il y a un contrat, on peut s'acheter une maison directe très jeune. Et donc, et puis il y a aussi une relation de soumission avec la marque, parce qu'on peut pas, on peut pas prendre certaines positions anticapitalistes, par exemple, si on est sous contrat avec Chanel, avec Dior, avec Vuitton. C'est pas compatible, quoi. Quoique. Non, quoique, je me pose la question, parce que là, je viens de voir que Aurel San a signé avec Dior. Donc, je me dis, bon, ouais, en fait, finalement, ça n'a plus aucun sens, quoi. J'ai vu Jim Jarmusch avec Saint-Laurent.
En termes d'image, c'est pas délirant.
C'est Bernard Arnault. C'est Bernard Arnault, donc c'est Carrefour, donc c'est Tex. En fait, quand t'es égérie Saint-Laurent, t'es égérie Tex. Il faut pas oublier Rana Plaza, les ouvrières au Bangladesh et tout ça. Moi, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien, en fait. Vous savez comment sont payés les gens qui travaillent pour Vuitton dans les usines, en Turquie. Non, mais surtout, la plus belle arnaque de Vuitton, c'est quand même qui vend 2000 ou 3000 euros des sacs en toile enduite de plastique. C'est même pas du cuir. Non, mais le mec est un génie, quoi. Il est incroyable. Il a réussi une telle arnaque. Un autre problème, c'est aussi de faire croire aux jeunes filles qu'il n'y a pas d'autre but dans la vie que d'avoir un sac Vuitton ou Chanel ou Dior. Tiens, on en est là. C'est chaud, quand même. On en est encore à vendre des sacs aux jeunes filles, à leur dire, c'est ça, en fait, le but dans la vie, c'est d'avoir des sacs. Comme je savais que j'allais faire ce podcast, j'ai beaucoup regardé Cannes aussi, où la présence des marques est absolument gigantesque et s'accroît d'année en année. Tu vois, par exemple, je voyais, il y avait un acteur et une actrice qui se baladaient sur la croisette. Ils étaient couverts de montres et de bijoux hyper chers. Et ils marchaient sur la croisette, entourés d'espèces de Golgothes. Et j'ai vu la vidéo sur Instagram, sur leur propre compte, et on les voit. Et ils regardent à droite, à gauche, et ils sont terrifiés, en fait. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Les acteurs et les actrices peuvent plus marcher sur la croisette pour rencontrer du public parce qu'ils sont entourés de molosses qui les protègent du vol et des agressions parce qu'ils portent des montres à plusieurs millions. Mais il y a un autre truc qui m'a beaucoup choqué, c'est Jane Fonda, anticapitaliste, qui se bat pour le climat, machin et tout. Et c'est elle qui a fait le petit discours juste avant la remise de la palme à Justine Triet. Et pendant son discours, elle a cité 3-4 fois L'Oréal en tant que bienfaiteur de l'humanité et des femmes. Et je me suis dit, mais ce n'est pas possible en fait. Normalement, il devrait y avoir une régulation de la publicité. On n'a pas le droit de faire de la pub pour une marque comme ça pendant une cérémonie publique qui célèbre le cinéma. Et surtout, je ne comprends pas comment dans la tête de Jane Fonda, qui a vraiment rien d'autre à faire que de lire des bouquins. Parce qu'elle est vieille, elle est riche. Enfin, franchement, elle peut lire, quoi. Comment elle ne s'aperçoit pas que d'être égérie L'Oréal, c'est exactement comme être égérie Total. Et je me dis, mais comment elle fait pour ne pas voir la dissonance? On ne peut pas faire une grève pour le climat et être égérie Total à côté. Ce n'est pas possible. Je ne comprends pas. Et puis la Palme, c'est pareil. La Palme, c'est Chopard. Depuis 1998... Voilà, une multinationale du luxe, c'est de l'or, on sait d'où vient l'or, des mines. Il soi-disant, c'est du fair-minded, mais en fait, l'or, c'est pour l'extraire, il faut du mercure, du cyanure et tout rejeter dans la nature. Il n'y a pas de fair-minded, il n'y a pas des mines équitables, ça n'existe pas. C'est ça, c'est ce décalage entre les films qui sont des films engagés, souvent, je dirais, progressistes socialement, qui ont l'air de lutter pour un monde meilleur et comment toute cette industrie dégueulasse se raccroche en fait à la création.
Tu le sais très bien, le cinéma est un marché, c'est un énorme business. Maintenant, il y a les plateformes qui sont venues dedans. Toi, par exemple, au moment où, quand tu commences dans le métier et que tu bosses pour Canal+, c'est pareil, Canal n'a pas les mains complètement propres. Mais ça te permet d'accepter, te permet aussi à toi de faire des projets plus perso, plus vertueux.
Bolloré, il n'était pas dans Canal+, il y a 10 ans. C'était déjà du capitalisme, etc. Mais ce n'était pas la même concentration. Si je prends l'exemple, un exemple que je connais bien, qui est celui du théâtre, c'est la même chose. Il y a des milliardaires maintenant qui rachètent des théâtres à Paris. Marc Ladret de la Charrière, par exemple, Fimalac, il a 20% des sièges des théâtres à Paris. C'est un milliardaire avec une agence de notation. Et ça, c'est nouveau. Avant, ça n'existait pas. Les théâtres appartenaient à des passionnés de théâtre, des petits vieux, des petites vieilles qui avaient des théâtres. Et il n'y avait pas de milliardaires dans le jeu. Avant, quelqu'un qui était passionné de théâtre pouvait acheter un théâtre pour 1 million, 2 millions. Aujourd'hui, les milliardaires, ils ont mis la barre à 7 millions. Donc en fait, quelqu'un qui est passionné de théâtre ne peut plus acheter un théâtre. Et en plus, pour rembourser le montant du prêt, si on achète un théâtre, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut des pièces qui fassent 90% de remplissage, là où avant, avec 60% de remplissage, les théâtres s'en sortaient. Donc ça change aussi la création à l'intérieur même. Il faut des créations qui cartonnent.
Ce que tu dis, c'est qu'en fait, le milieu du luxe est en train de préempter de façon globale le milieu de la création théâtrale, cinématographique, les lieux, les comédiennes, les comédiens.
En fait, il y a aussi quelque chose qui est assez pervers. C'est-à-dire que quand on est égérie ou amie de la maison Chanel, on a les couvertures des magazines, parce que comme tu le sais, les milliardaires sont les plus gros annonceurs de la presse. Donc, c'est ces filles-là qui ont les couves des magazines. Donc, c'est ces filles-là qui obtiennent la visibilité pour des films d'auteurs. Et donc, c'est ces filles-là qui tournent de plus en plus. Donc, il y a une primovis. C'est-à-dire que si tu es égérie, tu vas avoir plus de rôles, plus de visibilité, tu vas être plus jolie en permanence parce que tu vas être tout le temps bien maquillée, bien habillée. Et finalement, ça crée une distorsion de concurrence. Parce que celles qui n'ont pas ça, qui refusent, eh ben elles n'ont pas accès à la même visibilité.
Et t'en connais qui ont refusé ?
Oui. Oui, celle qui le dit publiquement, c'est Cécile de France. Je l'ai souvent entendu dire qu'elle refusait tout contrat de cet ordre-là. Il y a Florence Loiret-Caille, que j'adore, qui est une actrice incroyable aussi. Enfin, il y a quand même quelques personnes qui voient ça. Mais c'est difficile parce que qui refuserait 1 million, 2 millions, 3 millions ? Parce qu'on se dit, ah, mais avec ça, si on me donnait 3 millions, franchement, il y a plein de choses que j'aurais envie de faire. Mais d'où viennent ces 3 millions ?
Toi, si on te proposait de devenir égérie Chanel pour 3 millions par an, tu dirais quoi ?
Bon, j'ai la chance qu'il n'y ait aucune chance qu'on me propose ça, donc je ne suis pas concernée par cette question, mais je pense qu'à 20 ans, quand je n'avais pas conscience de tout ça, si on me l'avait proposé, mais évidemment. Non, mais surtout on sait, là, on arrive à... Là, il fait plus 4 degrés aujourd'hui par rapport à la moyenne de saison. On sait, en fait, que tout ça, ça craint. Et quand des actrices vont à Séoul pour le défilé Vuitton, puis en Inde pour le défilé Dior, puis à New York pour la collection Croisière. Mais en fait, je comprends pas, quoi. Je comprends pas. Et puis, ce qui est pas normal aussi, c'est que sur leur compte Instagram, quand c'est des actrices, il n'y a pas marqué publication sponsorisée par. On les voit, elles sont très belles, elles sont en Vuitton, elles sont en Dior, en Chanel, en L'Oréal, machin. Mais il n'y a aucune mention du fait qu'elles sont rémunérées pour ça. Et puis même, tu vois, quand elles font la couve des magazines, il n'y a pas publié rédactionnel.
C'est des zones grises. Quand tu as un annonceur qui te donne beaucoup, beaucoup d'argent, tu vas assez spontanément mettre en couve son égérie, qui en plus, en général, est très jolie, portera très bien les vêtements pour la couve, sera mince, etc. Donc, pour ce magazine, on aura cette fille qui est jolie, qui potentiellement a plein de choses hyper intéressantes à raconter, fait rêver tout le monde. C'est du publi rédactionnel qui ne dit pas son nom.
Mais en tout cas, j'ai pas envie de dénoncer quoi que ce soit, c'est juste, est-ce qu'on pourrait en parler ?
Ouais.
Est-ce qu'on pourrait en parler publiquement et dire, bah non, c'est pas normal que Jane Fonda cite L'Oréal 3 fois dans un discours au Festival de Cannes, c'est pas normal. Moi, j'ai pas envie, en fait, d'entendre de la publicité pour L'Oréal quand je regarde quelque chose, je suis pas prévenue, en fait, il n'y a pas le truc genre pub. Tu vois, je me suis pris de la pub et ça m'a fait de la peine. Et je voulais pas entendre ça, en fait. Je voulais regarder une cérémonie qui parle d'art, qui parle de... Et j'avais pas envie de me prendre une pub L'Oréal.
Tu soutiens aussi, dans le même genre, hein, Blanche Gardin, qui a fait beaucoup de bruit récemment avec son post Facebook, disant qu'elle ne participerait pas à LOL qui ressort pour la somme de 200 000 euros. Pour toi, c'est la même veine problématique ou c'est encore autre chose ? Là, on parle plus du luxe, mais on parle de...
On parle d'un milliardaire,
on parle de Jeff Bezos, puisque LOL qui ressort est sur Amazon.
Oui, ben c'est la même chose. C'est depuis quand c'est OK de faire de la pub pour Jeff Bezos. Depuis quand est-ce qu'on trouve que c'est une super idée? Ben depuis que Jeff Bezos est devenu producteur de contenu. Et donc, il y a Ricky Gervais qui avait eu, je crois que c'était au Golden Globe, qui avait dit à Sidesh, monter une chaîne de télé, vous iriez tous, quoi. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les enjeux sont grands et qu'on réagit avec beaucoup de légèreté. J'arrive pas à comprendre pourquoi ça devient OK. Parce que LOL qui ressort, c'est juste ça. C'est juste une publicité pour que les gens s'abonnent à Amazon Prime et du coup deviennent captifs de toute la logistique. Et plutôt que de privilégier un magasin de centre-ville, ils vont commander sur Amazon parce qu'ils sont déjà abonnés à Amazon Prime. C'est super pratique, c'est sur le téléphone et tout ça. Et donc, en fait, les acteurs et les actrices, sous couvert d'un divertissement, sont là uniquement pour ramener des nouveaux abonnés. Et ça a l'air de bien marcher puisqu'ils sont payés 200 000 euros pour le faire. Il aura fallu 3 saisons pour que quelqu'un dise...
Blanche Gardin ?
Oui. Dise, c'est pas possible. Et
c'est pris d'ailleurs un torrent de haine aussi.
Oui. Mais c'est pas facile d'attaquer les milliardaires. C'est-à-dire la puissance en face, elle est gigantesque. Et la puissance de communication qui a précédé la saison 2 de LOL qui ressort, elle était gigantesque. Le Parisien, tous les journaux ont fait des articles pour parler de cette émission. Il y a une couverture médiatique énorme.
Il y a une bonne interview de Ramzy, d'Eric et Ramzy, dans un des derniers Society, qui donc lui a fait LOL qui ressort et qui a bien pris ses 200 000 euros. Et donc quand le journaliste l'interroge sur le sujet, il répond... Moi, mes amis carleurs ou chauffeurs de bus, ils m'ont dit, si tu le fais pas, on t'ouvre la gorge. Tu sais combien on gagne. T'as cette chance, saisis-la. Mm-hmm. Et puis, il ajoute, ma mère, elle me tue si je prends pas le chèque. Mm-hmm. Voilà. Donc, il dit, si Blanche Gardin veut pas le chèque, je respecte, mais je veux qu'on respecte mon choix. On est beaucoup, beaucoup à comprendre que ce soit très dur de dire non à 200 000 euros pour une ou deux après-midi de travail, quoi. C'est la puissance de l'argent.
Là où je trouve que Blanche a été incroyablement courageuse et que son geste est important, c'est que elle a dit il faut qu'on en parle, parce que c'était caché ça. C'est-à-dire que on avait l'impression que les acteurs et les actrices jouaient gratuitement pour une association et que à la fin il y aurait 50 000 euros pour une association et que eux ils faisaient ça juste pour le fun. Moi j'avais entendu parler de ce chiffre. Mais j'avais dit, genre, c'est une légende urbaine. Personne paye 200 000 euros pour une journée. Je me disais, non, mais vous devez vous tromper, ça va être 20 000. Pas 200 000. Et en fait, ce que Amazon fait de mal dans le monde est proportionnel à la somme qu'ils sont obligés de donner pour que des acteurs qui ne sont pas débiles, enfin, ils savent quand même pour qui ils bossent. Donc, en dessous d'une certaine somme, ils ne vont pas le faire gratos, c'est pas vrai. On peut pas travailler pour un milliardaire et faire ça gratuitement. Le problème, c'est pas d'accepter ou de pas accepter. Le problème, c'est d'où vient cet argent. Cet argent, il vient de la plus-value. Il vient du travail des pauvres et des gens dans les entrepôts. Il vient des marchandises qui viennent en porte-conteneurs de Chine. En fait, il faudrait pas que ça existe. Je veux dire, personne ne devrait être payé 200 000 euros alors que d'autres sont payés... 1000 euros, enfin, qui sont payés au SMIC et tout ça, c'est pas possible. Enfin, le problème, c'est que les acteurs en participant, et c'est que des acteurs que j'adore, hein. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'acteurs là-dedans mais j'avoue que j'ai pas compris leur participation et que ça me rongeait, en fait. On rigole sur une entreprise écocidaire, en fait. C'est pour ça que je remercie Blanche d'avoir accepté de prendre sur elle la responsabilité de faire ce geste. C'est extrêmement dur, en fait, de se heurter à la puissance d'Amazon. Et il fallait bien que quelqu'un dise la réalité. Là, j'espère que personne n'aura l'indécence de faire une saison 3.
Tu penses que ça peut abîmer le travail des comédiens d'être trop décorrélé de l'argent ? Est-ce que d'être trop riche, finalement, ça empêche aussi de bien jouer, d'être traversé par des sentiments, on va dire, communs.
Je pense que là, par exemple, les marques se mettent à produire des films. Chanel, par exemple, se met à produire. Et oui, je pense que c'est problématique parce que... Enfin, je veux dire, c'est pas représentatif de la réalité, quoi. Ça va, les films vont devenir des publicités. Et est-ce qu'on a envie de ça ? C'est-à-dire que des gens beaux qui flottent.
Aujourd'hui, la nouvelle norme est celle-là. Elle est dans cette porosité entre les marques et les gens visibles et les gens qui font rêver. Et je trouve ça extrêmement sain que tu parles de ce sujet et que tu t'en empares. Je trouve ça extrêmement sain qu'il y ait des gens qui tirent la sonnette d'alarme. Et en même temps, je ne peux pas m'empêcher de me demander, mais comment est-ce qu'on peut revenir en arrière, puisque la puissance de l'argent est tellement monstrueuse. On parle de sommes colossales.
Il y a une époque où avoir des esclaves, c'était extrêmement chic. Maintenant, c'est plus trop chic.
Non, c'est moins chic.
C'est moins chic. Mmh. Mais voilà, c'est juste un changement de mentalité. Et c'est là que le combat contre les milliardaires rejoint le combat écolo.
Toi, aujourd'hui, tu te considères appartenir à quelle classe, catégorie socio-professionnelle ?
Je crois que je suis dans les 5% les plus riches du monde.
Et tu le sais ?
Bah, en fait, quand t'as un Solex, t'es dans les 50% les plus riches du monde.
Quand t'as un Solex ?
Ouais, c'est quand j'ai écrit quand vous êtes un milliardaire. Je crois qu'à l'époque, quand t'avais plus de 2200 euros de patrimoine, t'étais dans les 50% les plus riches. Et moi, je pense que je suis dans les 5% ou les 10%. Mais on est assez vite, en fait, dans les 10%. Donc, si vous écoutez et que vous avez... regardez dans les combien vous êtes, ça va vous remonter le moral. Non, mais c'est vrai que... Oui, on se rend pas compte que il y a une grosse partie de la population mondiale qui vit avec moins de $2 par jour.
Est-ce qu'il y a des choses que tu veux rajouter ?
Mais est-ce que je peux lire cette très belle citation de Pierre Clémenti, qui est un acteur des années 70 que j'aime beaucoup et qui parle justement du rapport des acteurs avec le cinéma. La plupart des acteurs qui percent n'y résistent pas. Ils pénètrent dans l'Olympe, ils prennent place au rang des demi-dieux. Ils croient eux-mêmes au mythe qui les déifie et qu'ils alimentent, qu'ils reconduisent par le spectacle de leur vie publicitaire. Ces idoles, je hais la chose et le mot, peuvent-elles susciter autre chose que des rêves de pacotille, des songes creux, désirs de luxe, d'ostentation, de vanité, de fric, qui intoxiquent les jeunes esprits bien plus gravement que toutes les drogues ? Le voilà, le véritable opium, qui détourne les énergies de la voix créatrice, qui assèche les cœurs, qui mobilise les forces vivantes vers l'objectif mesquin et négatif de la réussite individuelle. Je crois qu'il est beaucoup plus important pour celui qui est acteur de devenir un homme véritablement, d'apprendre dans la simplicité de la vie quotidienne à communiquer avec ses frères, d'aider par son travail à mettre en lumière la part du monde qui est vérité et non celle qui est toc, préfabriquée, illusion. L'acteur est le représentant de l'inconscient collectif. Son travail permet à chacun de prendre conscience de son bonheur ou de son malheur, de tenter de perpétuer l'un ou de faire cesser l'autre pour retrouver le sentier de la joie. L'acteur peut être l'étincelle qui donne naissance à un foyer où chacun pourra puiser un peu de chaleur, d'énergie, pour continuer son voyage.
Toi, c'est ta vision du métier ?
Oui.
Oui,
oui. Ouais. Ouais, il dit après, je pense que l'art doit être au service du peuple et c'est pourquoi il me semble qu'il est inconciliable avec le statut de l'idole qui est au-dessus du peuple, qui le domine et l'humilie, qui se fait servir par lui. Je vois l'artiste comme un ouvrier parmi les autres.
Merci Audrey Vernon.
Merci beaucoup. Moi, je pense que je ne vais plus jamais travailler après cette interview.
C'était un épisode de Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Velli et monté par Bastien Bironneau. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires. Déjà, ça nous fait plaisir et en plus, ça booste l'algorithme. Pour nous contacter, vous pouvez passer par notre compte Instagram ou bien nous envoyer un mail à thunepodcast@gmail.com. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee parce que donner un peu de Thune à Thune, ça fait sens et que ça nous aide à continuer. Elle se trouve dans la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt.
Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire thunes, vous savez qu'on a besoin de thunes. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez thunes, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien, il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google, en tapant Thunes Podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thunes continue, je compte sur vous.